Bonjour à toutes et à tous, et je suis très content de porter la parole ce matin pour la première fois. Donc on va porter notre attention sur le texte qui s'affiche à l'écran. Donc le premier chapitre de Philippiens au verset 6 à 8. Donc je le lis. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc avant de commencer, on va prier. Seigneur, Père, merci parce que tu as donné ta parole, qu'elle est accessible et que nous pouvons la méditer, la lire librement. Et Seigneur, tu vois ton serviteur qui est faible, mais que ton Saint-Esprit, que ta puissance puisse se révéler, se manifester et que tu puisses guider chaque mot qui va être dit. Que tous nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelques mots qui sont soulignés et ça va être l'objet de notre message. Donc, ce passage met en avant le lien que Paul avait avec les Philippiens. Et on peut le voir dans ces mots-là. Je vous porte dans mon cœur. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une affection très profonde que Paul avait pour les Philippiens. Le mot tendresse, c'est le mot entraille, donc c'est vraiment viscéral, c'est vraiment très profond, ce n'est pas superficiel. Et il en appelle même jusqu'au témoignage de Dieu lui-même, car Dieu m'est témoin au début du verset 8. Donc, nous allons nous concentrer ce matin sur l'affection de Paul envers les Philippiens, la base de cette affection et sa constance à travers le temps et les circonstances. Donc, le plan que voici, donc on va voir la base, premièrement, et puis la persévérance de cette affection à travers les circonstances, et puis on va en tirer quelques applications. Donc, premièrement, l'affection de Paul est basée sur la certitude que Dieu travaille dans la vie des Philippiens. On peut le voir au verset 6 et au début du verset 7. Donc, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et le début du verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Donc ce n'est pas une intuition ou un sentiment que Paul éprouve, mais c'est vraiment une certitude, et puis c'est étayé par des faits. C'est vraiment, il a une lucidité pour voir que cette promesse, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, sera rendue parfaite par Dieu lui-même. Et on va le voir au début de la jeunesse du ministère à Philippe. Au début, déjà, Paul n'avait pas le projet d'aller en Europe. Il voulait aller en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Et c'est Dieu lui-même qui a stoppé ce projet pour que Paul soit dirigé vers l'Europe. Donc on peut voir en Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, et se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, et ils franchirent là alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc on voit vraiment l'Esprit de Jésus qui est mis en évidence, et c'est Dieu lui-même qui agit pour bloquer le projet de Paul. On peut le voir par la suite. Que Dieu est intervenu directement envers Paul par un songe à Troas. En Actes chapitre 16, versets 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc on voit que c'est Dieu, par l'intermédiaire de ce songe, qui met la conviction à Paul d'aller en Macédoine, en Europe. Et donc, voilà, c'est Dieu qui est à l'œuvre, à la jeunesse de ce ministère. Quand Paul arrive à Philippe, donc qui est le premier district de Macédoine, Dieu intervient dans le cœur de Lydie pour la réception de la parole de Dieu. Donc on peut le voir en acte 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et à l'écouter. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. On voit que c'est le Seigneur qui lui a ouvert le cœur. Donc Dieu est à l'œuvre même dans la réception de sa parole. Et puis Dieu est intervenu de manière aussi miraculeuse dans la prison à Philippe. Donc rappelez-vous, Paul et Silas étaient emprisonnés suite à des troubles qui sont causés dans la ville de Philippe. Et le Seigneur, d'une manière miraculeuse, alors qu'il chantait des cantiques, par un tremblement de terre, ouvrit les portes de tous les prisonniers. Et le geôlier qui était présent à ce moment-là, du fait qu'il a failli à sa tâche, ne voyait aucune issue pour sa vie. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, alors que le geôlier ne voyait aucun espoir, lui dit, en acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc c'est des mots qu'on sait tous, on a tous entendu, nous qui avons placé notre confiance en Jésus, au moment où nous étions dans le désespoir, au moment où Dieu nous convainc de pécher, cette phrase, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est ce que le geôlier a fait par la suite, et il a accueilli Paul et Silas dans sa maison. Donc ça, c'était à la genèse du ministère à Philippe. Et on peut voir que le travail de Dieu ne s'arrête pas au début, mais il continue. Donc maintenant, c'est-à-dire lors de la rédaction de la lettre de Paul aux Philippiens, on voit que Dieu travaille toujours dans leur vie. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc on peut voir qu'une des manifestations du travail de Dieu dans la vie des Philippiens, c'est qu'ils obéissent toujours à la parole, comme c'est souligné dans ce verset. Donc ça ne s'est pas arrêté juste au début. On sait que Paul n'est pas resté très longtemps à Philippe, il y est passé deux fois, mais malgré ce peu de temps qu'ils ont eu ensemble, les Philippiens continuaient à obéir à la parole de Dieu. On voit que Dieu intervient aussi dans la vie des Philippiens par leur part qu'ils prennent dans l'évangile. Et cela est démontré par les dons qu'il prodigue à Paul et aux frères et sœurs en Christ. On peut le voir en Philippiens chapitre 4, versets 15 et 16, donc, qui est sur l'écran. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc déjà, c'est au commencement de la prédication de l'évangile, donc la première fois que Paul était venu à Philippe, et après il est parti à Thessalonique. Les Philippiens avaient à cœur le ministère de Paul et pourvoyaient à ses besoins, et c'était les seuls à le faire. Sachant que Paul était persécuté à Thessalonique, et il le faisait pas qu'une fois, c'était à deux reprises. Et puis non seulement au début du ministère, mais aussi jusqu'à maintenant, où Paul est emprisonné. Philippiens chapitre 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, ils ont détaché un frère de l'église de Philippe, Épaphrodite, pour qu'il apporte à Paul, qui est à Rome, en prison, de quoi pourvoir à ses besoins. Et puis, on voit aussi, au chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc, ils pensaient vraiment au ministère de l'apôtre Paul. Et dès qu'ils en avaient l'occasion, ils profitaient de cela pour le manifester. C'est une église aussi qui continuait à prier pour Paul. Philippiens chapitre 1, verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc, on voit que les Philippiens priaient pour Paul, pour son ministère. Il est question ici du salut. Ce n'est pas le salut éternel, le salut par la foi dont Paul parle, mais c'est que Paul avait l'absolu nécessité dans sa vie que tout en lui glorifie Jésus-Christ. Il dira au verset 20 que c'est soit par sa vie, soit par sa mort, que Christ soit glorifié en lui. Donc c'est vraiment ce qu'il cherche, c'est que les Philippiens prient pour que toute sa vie soit à la gloire de Jésus-Christ. Et puis c'est une église, Philippe, qui faisait confiance à Jésus-Christ malgré un environnement et un contexte défavorable. Philippiens chapitre 2, verset 15 et 16. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Jésus-Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc on voit qu'ils sont au milieu d'une génération perverse et corrompue, donc à l'époque de l'Empire romain. Donc, et malgré le fait d'être à contre-courant de leur environnement, ils brillent comme des flambeaux. Donc c'est pas comme une petite bougie... Mais c'est vraiment des flambeaux, c'est-à-dire que ils allaient vraiment à contre-courant de leur époque. Et puis non seulement ils allaient à contre-courant, mais ils portent la parole de vie, c'est-à-dire qu'ils témoignent aussi de leur foi en Jésus-Christ. C'était une église aussi dans laquelle il y avait des faux docteurs, donc on peut le voir en Philippiens chapitre 3, versets 2 et 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc il y avait vraisemblablement des personnes qui proclamaient que pour être juste devant Dieu, il fallait respecter la loi de Moïse, la Torah. Mais les Philippiens, qui étaient avisés, qui étaient lucides, face à ce genre de doctrine, la réfutaient et continuaient à placer leur confiance en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul, dans le verset 3, les inclut avec lui, car les circoncis, c'est nous. Donc, c'est une église qui combattait les faux enseignements, et puis c'est une église qui souffre. Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc c'est une église qui est persécutée. Alors on n'a pas des détails sur les circonstances, mais en tout cas c'est une église qui souffre pour Jésus-Christ. Donc on peut voir que Paul travaille au début à la jeunesse du ministère, maintenant au moment de la rédaction de la lettre, et puis il va pas s'arrêter, et puis ça ne va pas s'arrêter là. Dieu travaille dans la vie des Philippiens jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, selon Paul, c'est celui de la rédemption de notre corps, notre glorification, autrement dit. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc là, on parle, et c'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre lui-même, que notre corps physique, éreinté par le péché, corruptible, sera rendu semblable au corps de sa gloire, à l'image du corps de Jésus-Christ ressuscité. Et c'est Dieu lui-même qui va le faire. Par ailleurs, Paul ne laisse pas les Philippiens sans aucun précepte. La vie chrétienne, ce n'est pas une croisière et on attend le débarquement pour finir la croisière. Non, Paul invite les Philippiens à être sérieux dans leur vie chrétienne. On reprend le Philippiens chapitre 2, verset 12, que l'on avait vu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant, je suis absent. Donc, Paul encourage les Philippiens à être sérieux, à sérieusement suivre le Seigneur. Et à faire fructifier ce que l'on a reçu par grâce. Et il exhorte les Philippiens à avoir une attitude digne de l'Évangile. En Philippiens chapitre 1, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Et il dit cela parce que on rendra compte devant Dieu de notre engagement et de l'impact que l'Évangile a sur notre vie. Et c'est pour ça qu'il encourage les Philippiens à rester, que leur attitude soit conforme à l'Évangile de Christ. Donc on peut voir en conclusion de cette première partie que l'affection de Paul ne se base pas sur un sentiment ou une émotion, mais elle se base sur la constatation que Dieu travaille dans la vie des Philippiens. Et il était particulièrement attentif à la manifestation de la promesse que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On constate aussi dans la lettre aux Philippiens qu'il y a peu de critiques envers eux, mais c'est surtout un émerveillement de ce que Dieu fait dans cette Église. Et il y a aussi un encouragement. C'est que ces Philippiens, ce n'est pas des chrétiens extraordinaires, ce n'est pas des Superman, des super chrétiens, mais c'est que c'est Dieu qui travaille dans leur vie, et il laissait Dieu agir dans leur vie. Et il y a un encouragement ici, c'est que comme Dieu travaille dans notre vie, et bien Dieu ne va pas abandonner son projet à notre égard. Peut-être qu'on peut traverser des moments de découragement. On peut se regarder dans la glace et se dire, bon, à quoi bon continuer, franchement, qu'est-ce que Dieu peut faire de moi? Mais non, il a toujours de l'espoir, et Dieu n'en a pas fini avec vous et avec nous. Dieu continuera d'achever ce qu'il a commencé jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, c'est un encouragement pour nous à continuer notre marche chrétienne. On va voir la deuxième partie, que cette affection que Paul avait pour les Philippiens persistait malgré des circonstances défavorables. Et la première circonstance, c'est que Paul était emprisonné. Paul est emprisonné à Rome, donc on peut voir Philippiens chapitre 1, verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, l'une ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc on voit le mot lien, donc il est emprisonné. on peut voir dans notre texte de base qu'il redit le mot lien. Donc le verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Donc Paul est emprisonné et à Rome, puisque on voit à la fin de sa lettre les salutations qu'il adresse à l'église de Philippe, il cite ceux de la maison de César. Donc en chapitre 4, verset 22. Acte 28, 16 nous apprend qu'en fait il est assigné à résidence et qu'il était constamment sous la surveillance d'un soldat 24 heures sur 24. Dans un monde où on a peur d'être tracé, d'être suivi par les logiciels, les réseaux sociaux, ben Paul, c'était vraiment physique. C'est-à-dire, voilà, il n'avait pas de vie privée du tout. Et puis, Paul, il attend aussi l'issue de son procès, parce qu'il était en cours de procès. Il avait demandé à être jugé par César, donc il attend son verdict. On peut le voir en Philippiens chapitre 2, verset 23. « J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Donc ça peut être une condamnation à mort, une remise en liberté. Il ne sait pas trop à ce moment-là. Et le fait d'être emprisonné, ça a pour conséquence que bah, il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas aller voir ses frères et sœurs en Christ, qu'il avait vus, où il avait prêché. Et pourtant, il avait le désir de les voir. On peut le voir en Philippiens chapitre 1, versets 24 et 26. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc même, il se projetait à être parmi les Philippiens. Donc il avait vraiment ce vif désir de les voir. Et puis, non seulement qu'il était privé de liberté, mais il se sentait bien seul. Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc, on peut voir qu'il est le seul à porter les fardeaux des Philippiens. Alors, il y a quand même Timothée et Epaphrodite qui sont présents, mais il était quand même bien seul. Non seulement qu'il était seul, mais c'est justement les proches collaborateurs, son proche collaborateur Epaphrodite, était aussi mal en point au niveau de sa santé. Philippiens chapitre 2, versets 25 à 27. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » Verset 27, « Il a été malade en effet, et tout près de la mort, et Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Donc, on peut voir qu'il était très gravement malade, on ne sait pas quel type de maladie, mais en tout cas, il était vraiment très proche de la mort. Et puis, on peut voir cette expression à la fin du verset 27, « Tristesse sur tristesse », donc probablement que Paul ne cite pas toutes les épreuves dans cette lettre. Donc c'est vraiment une tristesse qui s'est rajoutée à ce qu'il y avait déjà avant. Donc c'était vraiment... Paul était vraiment touché émotionnellement par ces circonstances. Et puis il était non seulement seul en prison, son proche collaborateur était malade, mais il était aussi persécuté. Philippiens chapitre 1, verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc on voit que c'est même de la part de certains des collègues qui prêchaient l'évangile qui reçoit ces persécutions. Donc C'était vraiment une situation très difficile pour Paul. Et malgré qu'il était en prison, qu'il était seul, que ses proches soient malades, qu'il était lui-même, on atteignait sa personne, et bien malgré ces circonstances, on aurait pu lui donner raison de qu'il s'apitoie sur son sort, qu'il se tourne, se ressente sur lui-même, mais non. Il avait comme intérêt principal celui des Philippiens, de l'église de Philippe. C'était quelque chose qui était primordial pour lui. Déjà, on peut voir qu'il leur témoigne de son affection chaleureuse. Donc, comme notre texte de base nous le dit, Philippiens chapitre 1, verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, il prend le temps de leur dire combien il les aime. Je ne sais pas si vous avez traversé des moments difficiles, mais on a tendance à se recentrer sur nous-mêmes, à penser surtout à soi. On dit « prends soin de toi ». Par exemple, quand on souhaite à quelqu'un de se rétablir. Mais non, Paul, lui, pense surtout aux autres. Et il le témoigne par ses mots. Et il le témoigne aussi par ses actes. Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 28. Donc on a déjà lu le 25 et le 27. Et on va lire le verset 28. « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Donc Épaphrodite, qui était un frère de l'église de Philippe, qui a été envoyé pour transmettre le don de l'église de Philippe à Paul, donc était malade et les Philippiens étaient vraiment très inquiets pour sa santé, parce qu'ils avaient, il avait appris. Et du coup, comme il sentait, Paul, que les Philippiens étaient vraiment, avaient besoin d'être consolés, il est prêt à se séparer d'Épaphrodite, qui lui-même aussi avait besoin d'être consolé, de revoir ses frères à Philippe. Il est prêt à se séparer d'Épaphrodite, son proche collaborateur, pour rassurer les Philippiens. Il est prêt à augmenter sa solitude, déjà qu'il était bien seul, pour que les Philippiens soit consolé. Donc il estimait le bien des Philippiens supérieur au sien. Donc c'est vraiment un acte d'amour et d'affection. Et puis, même personnellement pour lui, au chapitre 1, versets 22 et 26, donc on va lire, on voit qu'il est dans un dilemme. Verset 22, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, je les désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Verset 25, « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez au moins un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Donc on voit que Paul estime meilleur pour lui d'être avec Christ. Donc de passer par la mort et de rejoindre son Seigneur pour qui il a donné sa vie. C'est ce qui était le mieux pour lui. Mais comme il avait les Philippiens à cœur, il estimait quand même nécessaire, c'est le mot qu'il emploie, de rester dans la chair et d'aller auprès d'eux. Et puis pourquoi il a un intérêt, c'est surtout, verset 25, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc c'est vraiment pour fortifier les frères dans la foi. Donc on voit que Paul avait vraiment les Philippiens à cœur jusqu'à ne pas prendre en compte son désir personnel. Et puis dans ses prières aussi, Paul, en Philippiens chapitre 1, verset 9, il demande dans ses prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc ses prières sont centrées surtout sur les Philippiens et pas sur lui-même. Donc on voit aussi que l'épître aux Philippiens est sous la tonalité de la joie. Donc j'ai mis plusieurs versets. où Paul parle dans une atmosphère de joie, et malgré les circonstances qu'il traverse, il trouve toujours la joie dans le Seigneur. Donc on voit que Paul, emprisonné, seul, ses proches collaborateurs malades, persécuté, et malgré cela, il témoigne de son affection pour les Philippiens par ses mots, son affection chaleureuse, par ses actes, et puis il renonce même à ses désirs personnels. Et dans ses prières aussi, il centre ses prières pour les Philippiens. Et ce qui alimente aussi cette affection, qui persiste malgré les circonstances, c'est que l'évangile était plus important que tout pour Paul. Donc, si on reprend le texte au verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc il les porte dans le cœur, donc dans ses liens, ce qu'on a vu, mais aussi dans la défense et la confirmation de l'évangile, parce qu'ils sont tous participants à la même grâce que lui. Donc, l'évangile était central dans la vie de Paul. Philippiens chapitre 1, versets 27 et versets 29 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Verset 29. Car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc on voit dans ces versets la grâce. La grâce à laquelle Paul fait allusion, c'est celle de croire en Christ. Donc on va au verset 29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais la grâce aussi c'est de souffrir pour Christ. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais la grâce, c'est aussi les souffrances de Christ. C'est de souffrir pour lui. Et pourquoi il y a une souffrance? Parce qu'il y a un combat. On peut le voir au verset 27, la fin du verset 27, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc ce combat concerne la foi de l'évangile de Christ. C'est l'évangile, sa proclamation par nos paroles et par nos vies, et ce, peu importe les circonstances. Donc, on voit que c'est central, non seulement l'évangile, mais ce qui est lié à elle, c'est-à-dire aussi les souffrances que peut engendrer la proclamation de l'évangile. Et à travers cela, pourquoi Paul les porte dans son cœur dans la défense et la confirmation de l'évangile, c'est parce qu'il veut transmettre son expérience personnelle à celui des Philippiens. Paul était le défenseur de l'évangile à Rome, dans la prison où il était. Et il veut que les Philippiens comprennent, il veut qu'ils aient la même détermination de persévérer et de proclamer l'évangile dans le milieu où ils sont. On peut le voir en Philippiens chapitre 3, verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. On peut le voir aussi au chapitre 4, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc on voit que Paul veut transmettre son exemple de détermination, de persévérance dans l'évangile aux Philippiens. Donc, comme on l'a vu, le combat, il le soutient à Rome. Et depuis qu'il a connu Christ, c'est une vie qui n'était pas facile. Et il veut que les Philippiens soient aussi des vaillants défenseurs de l'évangile à la gloire de Christ. Et quelle détermination, c'est même que la détermination pour l'évangile était telle que l'atteinte de sa personne n'est rien comparée à celle de l'évangile. Philippiens, chapitre 3, verset 15 et verset 17 à 18, nous parle de ces personnes que j'ai déjà mentionnées, qui prêchaient Christ, qui étaient des collègues, mais qui avaient de mauvaises dispositions de cœur. On va lire ces versets. Verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc voilà, il mentionne quand même qu'il y a envie, esprit de dispute, vraisemblablement jalousie envers Paul. Versets 17 et 18. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc on voit un vocabulaire, bon, il ne passe pas à côté des motivations de ses collègues, mais au final, verset 18, qu'importe, ce n'était pas le plus grave, et à côté de l'annonce de Christ, c'est ce qui le réjouit, c'est que Christ est annoncé. Donc les atteintes de sa personne ne sont rien comparées à l'annonce de Christ, même si c'est pour des motifs qui n'étaient pas purs. Et au contraire des détracteurs de l'Évangile, chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 2 et verset 18 à 19. Alors prenez attention au vocabulaire qu'il emploie. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Versets 18 et 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc on voit que c'est un vocabulaire qui est plus sévère, beaucoup plus. Qui est très fort, Paul est vraiment intransigeant avec ceux qui déforment l'évangile. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Donc c'est vraiment un vocabulaire qui est très très fort et Paul n'hésite pas à l'employer. Versets 18 et 19, c'est même encore plus fort. En ennemi de la croix de Christ, et puis il parle aussi de leur fin, donc c'est la perdition. Il parle de comment ils sont, pour Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils pensent qu'aux choses de la terre. Donc Paul est vraiment intransigeant avec ceux qui déforment l'évangile. Donc, en conclusion de cette deuxième partie, on peut voir que malgré les circonstances de Paul, emprisonné, seul, malade, maladie de ses proches, persécuté, il a toujours cette affection profonde pour les Philippiens, et cela a été alimenté par le fait que l'évangile était plus important à ses yeux que toute autre chose. Et il veut transmettre l'exemple, sa détermination, son amour de l'évangile aux Philippiens, et c'est pour ça qu'il les porte dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application pour nous aujourd'hui? Donc, par rapport à notre affection, sur quoi elle se base? Sur quoi se base notre affection pour nos frères et pour nos sœurs? Qu'est-ce qu'on désire pour nos frères et sœurs? On peut désirer une bonne situation, un travail, une réussite dans les études. Notre affection peut se baser parce qu'on a des intérêts communs, des loisirs en commun ou autre. Est-ce que ce que le passage nous enseigne, cette lettre nous enseigne, c'est qu'il faut désirer d'abord la poursuite de l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs en Christ. C'est ce qui est central. Prêtons attention à ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs, à ce que Dieu aussi fait dans la vie de notre vie aussi. comme je l'avais dit, il y avait peu de critiques dans cette lettre par rapport aux Philippiens. Avant de se hâter à la critique, disons-nous que Dieu n'en a pas fini avec nos frères et sœurs. Dieu n'en a pas fini avec nous-mêmes. On peut aussi s'autocritiquer. Dieu n'en a pas fini avec nous-mêmes. Et l'œuvre de Dieu se poursuivra jusqu'au jour de la rédemption. Et puis, la deuxième chose que nous enseigne ce passage, c'est quelle place accorde-t-on à l'Évangile ? Quel impact cela a dans notre vie ? Pour Paul, l'Évangile était tellement important que les atteintes de sa propre personne étaient insignifiantes. Du moment que l'Évangile était prêché, il se réjouissait. Il était attentif à son progrès et à l'œuvre de la vie, à l'œuvre de Dieu dans la vie dans la vie de chacun. Et pourquoi pour Paul cet évangile est si précieux ? Philippiens chapitre 3, versets 7 et 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, pourquoi l'Évangile était si important pour Paul ? Pour lequel il a tout renoncé. Donc, il était quand même socialement, avant de connaître Christ, il était socialement bien placé, un érudit, un docteur de la loi. Mais tout cela, pour lui, c'était de la boue. Parce que l'Évangile, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et ça, il n'y a rien de plus précieux que cela. Parce que Christ, par son œuvre, nous rend juste devant Dieu. Donc, comment se positionne-t-on face à l'Évangile ? Peu importe de là où vous venez, de quel arrière-plan vous êtes, si vous avez la foi ou pas, cette question se pose toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de l'Évangile ? Amen.